30 ans. C'est l'âge d'une chanson brésilienne de Roberto Carlos qui s'appelle Amazonia. Dans cette chanson, il est question de terribles signaux d'alerte, de nous autres qui devrions nous réveiller pour que la forêt vive. Il est question de ceux qui déboisent et qui tuent, du sang vert déversé dans la forêt, des feuilles qui sont tombées, des arbres assassinés, ces feuilles qui sont comme des lettres que nous ne lisons pas. Il est question dans cette chanson de l'insomnie du monde. 30 ans, elle a 30 ans cette chanson qui commence par une vision, la vision cruelle d'un futur de peu d'années. Et je me demande ce matin, c'est combien de temps peu d'années pour l'Amazonie qu'on a toujours associée depuis que je suis né au temps compté, à un espace menacé, à un poumon qu'on empêcherait bien assez tôt de respirer. Ce qui frappe en ce moment, c'est l'accélération justement, la vitesse de cette dévoration qui ne s'est jamais faite aussi vite. Vous le savez, en un an, la déforestation a doublé. En 50 ans, partie en fumée, 20% de la forêt. Et l'on prédit qu'en 2050, il est probable qu'elle n'existe presque plus, l'Amazonie. 2050, c'est dans 30 ans, justement. Vous imaginez, 30 ans.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi mon invité d'aujourd'hui nous sauve-t-il? Auteur d'une œuvre qui nous fait sans cesse explorer l'espace et le temps, il nous convie, cette fois, à une remontée de l'Amazone dans ce texte Amazonia, une traversée semée de détours et de digressions aux accents parfois crépusculaires. Bonjour Patrick Deville.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ce qui me frappe, c'est le rythme. Je disais, à ce rythme-là, est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut encore sauver l'Amazonie?
Oui, je l'espère. Enfin, il ne faut pas être catastrophiste. Il faut l'être. Enfin, il faut être inquiet, évidemment. C'est ce que vous venez de rappeler. Les choses s'accélèrent. C'est planétaire. Ce n'est pas que l'Amazonie. C'est évidemment symbolique, l'Amazonie. Mais enfin, les forêts équatoriales africaines au Congo brûlent aussi. Quand on prend des avions la nuit, on voit la planète brûler partout. En Indonésie.
Alors, c'est intéressant la question du temps, parce que pendant des semaines, les incendies en Amazonie ont fait la une des journaux du monde entier. Chacun y est allé de sa prise de position, de son indignation, de sa contribution, et depuis plus grand chose. Ce retour d'un certain silence, comment vous l'interprétez, vous?
Malheureusement, la règle de l'actualité, enfin, les indignations ne durent pas. Peut-être que cette actualité aura servi à quelque chose, à certains, à une accélération de la prise de conscience, à une pression, parce qu'en Amazonie, peut-être davantage qu'ailleurs, il y a tout de même deux raisons différentes. Il y en a une qui est le bouleversement planétaire, climatique, et puis une autre qui est politique et locale. C'est la politique de Bolsonaro, ce sont ses promesses électorales. Et là, sans doute, cette indignation planétaire aura servi à quelque chose, on peut l'espérer.
C'est ça que vous voyez, vous, quand vous voyez les images spectaculaires de ces forêts dévastées, c'est précisément les erreurs politiques.
S'agissant du Brésil, et actuellement, oui, il y avait, puisque dans le livre, je suis à Manaus au moment de la campagne présidentielle, Bolsonaro n'est pas encore élu, mais il y a cette promesse d'ouvrir la forêt, de permettre davantage de déforester, de planter. Donc là, c'est tout de même lié réellement à une situation politique.
Alors c'est intéressant parce que ce territoire, vous l'avez sillonné effectivement, Patrick Deville, au gré de nombreux voyages, dont votre livre témoigne. Au fil des années, qu'avez-vous vu disparaître justement? Quel paysage? Quels êtres vivants?
C'est la première fois que je me rends en Amazonie pour ce livre. Séjourné depuis une quinzaine d'années parce que je souhaite que pour ces livres ça dure longtemps.
Oui.
Donc pendant une quinzaine d'années j'ai effectué certains séjours ailleurs au Brésil et puis beaucoup en Équateur pendant une bonne dizaine d'années au moment de la Revolution Ciudadana où il y avait à ce moment-là un projet assez écologique et révolutionnaire qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. C'était peut-être trop en avance. Il y avait cette promesse de, enfin, cette proposition de Correa de mettre fin à l'extraction pétrolière, de laisser le pétrole sous la forêt, en échange d'un dédommagement international. Mais c'est une économie qui n'existe pas encore. Ça, aucune nation n'a abondé. Mais il y avait cette idée que l'humanité dans son ensemble avait davantage besoin d'air pur que du pétrole équatorien. Mais ça n'a pas fonctionné.
Pour autant, vous avez vu des choses disparaître au gré de ces voyages, justement?
Ce qu'on voit disparaître, c'est surtout lorsqu'on survole, parce que la navigation sur l'Amazone et sur ses affluents, on voit évidemment des cultures, des fermes, on voit des endroits de forêt qui sont transformés en zones d'élevage, mais c'est un peu petit, c'est un peu plus loin que cela se passe, où il y a une déforestation monstrueuse avec les bulldozers, etc. Pour... Et puis c'est un sol, ça je l'ai découvert là, cette fois-ci, j'en avais pas pris conscience, c'est un sol extrêmement fragile et très peu profond. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, lorsqu'il y a des arbres immenses qui tombent, parce que ça arrive avec le vent, la tempête, ils soulèvent une couronne de racines qu'on appelle des soleils, justement, sur place, et on s'aperçoit à quel point c'est fragile parce que peu profond. Et qu'une fois déforesté, la pluie balaie tout ça, enfin, tout le limon, tout ce qui est riche, part dans les rivières, les fleuves et finalement à l'Atlantique et c'est perdu pour la forêt.
Qu'est-ce que vous connaissiez de l'Amazonie, vous, avant de vous y rendre? Par quels récits, par quelles images votre imaginaire avait-il été nourri, justement, Patrick
Alors,
Deville?
La littérature et le cinéma.
Ah.
J'ai un très grand goût de la navigation en général. Je suis toujours plus à l'aise et plus heureux sur quelque chose qui flotte. un voilier, un paquebot ou une pirogue. Mais la navigation fluviale, parce que j'avais, pour écrire Équatoria, navigué sur le Goué et le Congo, j'avais remonté un peu le Mékong depuis son delta jusqu'à Phnom Penh, sur un sampan, et dont le rêve premier, c'était cette navigation fluviale extrêmement lente. Et sinon, la littérature, j'avais lu la littérature brésilienne, équatorienne, péruvienne... Depuis longtemps, je continue à la lire, et le cinéma. Et dans ce livre-là, il y a surtout ces deux films de Werner Herzog sur l'Amazonie, chronologiquement Aguirre ou La colère de Dieu, et 7 ans plus tard, Fitzcarraldo.
Et c'est vrai qu'on voit surgir sans cesse dans ce récit d'autres récits que les vôtres. On y croise le chemin de Montaigne aussi, de Jules Verne, de Melville, de Lévi-Strauss, mais aussi celui de Blaise Cendrars. Que nous dit Blaise Cendrars sur le Brésil?
Alors Blaise Cendrars, en plus, pour moi, d'un simple point de vue littéraire, comme il s'agit d'un projet, enfin il y a une espèce de cycle de 12 romans sans fiction, le précédent était le français, avant de repartir pour un tour du monde dans l'autre sens. Et je mentionnais cette lecture extrêmement jeune, trop jeune, sur une injonction paternelle de lire Moravagine.
Nous
Mon père
voilà.
m'avait quasiment obligé à lire Moravagine, à un âge où on ne lit pas Moravagine, de Cendrars, pour d'autres raisons, puisque nous habitions, en fait, il dirigeait un hôpital psychiatrique, et que Moravagine est un four, mais c'était aussi un goût littéraire de mon père. Et ce roman... est en partie brésilien et se termine à Manaus. Et Cendrars, lui, a séjourné tout de même plus au sud, São Paulo, Minas Gerais. Et je ne savais pas bien, parce que depuis, je l'ai relu plusieurs fois, Moravagine. Et je ne sais plus bien, dans ma première lecture d'enfant, ce qu'il restait. Mais vraisemblablement, les Indiens bleus. Parce que ça fait rêver un enfant. Les Indiens bleus d'Amazonie, qui est évidemment fiction de Cendrars.
Et est-ce que vous avez fini par comprendre ce que votre père voulait vous transmettre
en... Non, toujours pas. Et puis, j'y ai beaucoup pensé, parce que j'ai écrit là sur ma vie avec mon père avec son père dans le roman précédent, mais je ne l'avais pas interrogé, je ne sais pas ce qu'il m'aurait répondu d'ailleurs. C'était assez troublant puisque le projet de Moravagine, qui lui-même est un fou, est d'ouvrir les asiles, d'ouvrir les hôpitaux psychiatriques, de libérer les fauves, d'inventer une nouvelle humanité, alors que le travail de mon père était tout de même un peu l'inverse. Et d'autre part, il a la jambe droite tordue et boite horriblement, et j'avais ce même problème. C'est très très curieux. Je ne sais pas bien ce qu'il avait amené, au-delà de son goût littéraire pour l'œuvre de Cendrars, à quasiment me contraindre à le lire.
Il faut dire que la relation père-fils, vous le dites, en creux, est absolument centrale chez vous dans le livre précédent, mais dans celui-ci aussi. Qu'est-ce qui se joue pour vous d'un père à son fils, avoir des enfants en réalité? En quoi ça transforme quelqu'un?
J'écoutais juste avant cette chronique sur la famille, très très drôle, mais dans si on joue à ce jeu de cartes des 7 familles, enfin la seule père que je connaisse, c'est cette relation père-fils. Je n'ai pas eu de sœur, je n'ai pas de fille. Je suis un homme et comme je n'écris pas de fiction, jamais, je serais totalement incapable d'imaginer écrire sur les mères et les filles. Je vois bien que ça doit être passionnant, mais ce n'est pas mon... Mais cette relation père-fils, puisque dans tous ces livres, n'écrivant pas de fiction, il y a plusieurs genres littéraires, mais enfin j'écris beaucoup des vies avec un V majuscule, ce genre littéraire depuis Plutarque jusqu'à Marcel Schwab, et à chaque fois écrivant la vie d'un fils, enfin d'un homme, je considère qu'il est un fils, et souvent je vais chercher le père. Pour la vie de Malcolm Lowry, je me suis intéressé à Arthur Lowry, la vie de... parfois c'est magnifique, c'est toujours énigmatique. Parfois, c'est dramatique. C'est John Kipling, le fils de Rudyard Kipling, qui meurt, en fait, de ce poème « If », que mon père aussi m'avait beaucoup incité à lire, quasiment ordonné. « Tu seras un homme, mon fils oui. ». Voilà. Et le fils Kipling, John, il est miro, il voit pas à 50 centimètres, et à cause de ce foutu poème, alors qu'il est réformé, il veut absolument s'engager dans l'armée britannique et faire la guerre de 14. Et évidemment, il est abattu au premier assaut, et c'est le drame du père, Rudyard Kipling. Il sait que son poème est responsable de la mort de son fils, en grande partie.
Quelquefois, les relations père-fils, c'est une épiphanie chez vous. Voilà ce que vous écrivez. Un peu en retrait, j'observais son profil grave et ruisselant des eaux salées de la baignade et douces de la pluie, les cheveux bouclés de sa mère et les yeux noirs, un visage un peu grec, silencieux, en lévitation, survolant les siècles et les continents, retrouvant tout au bout du chemin les lectures échangées au long du parcours, les histoires racontées et discutées dans les cabines de navires et les chambres d'hôtel, le tourbillon de toutes ces vies et des deux nôtres aussi au milieu du maelstrom, convaincu que, pour cette minute au moins, je faisais bien d'être vivant, comme si, depuis 29 ans, j'attendais cette si fragile épiphanie. Je faisais bien d'être vivant. Écrivez-vous, Patrick Deville, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Eh bien, il y a des moments, souvent rares, qu'on peut justement appeler des épiphanies, des petits surgissements. Il arrive des moments où l'on se dit « pour cela, je fais bien d'être vivant ».
Vous arrive-t-il de penser que vous feriez mieux d'être mort ?
Non, non, non. De manière générale, non. Mais cette adéquation magnifique à l'instant, c'est tout de même quelque chose d'assez rare. Et entre ces épiphanies, l'intérêt d'être vivant ne baisse pas. Mais enfin, on n'a pas toujours, on n'a pas chaque jour. Et comme je l'écris ailleurs, c'est une ou deux fois l'année, les années où ça va bien.
Qu'est-ce qui, pour vous, en fin de compte, vaut la peine d'être vécu ?
Ces moments-là, et donc l'amour, le goût, l'exaltation de la littérature et des êtres, évidemment.
Vous savez qu'il y en a une qui vaut pas du tout la peine d'être vécue dans cette émission, sans doute la connaissez-vous. Tout le monde la connaît, c'est la culture. Et son actualité sans intérêt, sans vie, sans rien. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 12 septembre ?
J'adore lire, je lis beaucoup.
Moi aussi j'aime lire, preuve qu'il ne fallait pas désespérer, 84% des enfants âgés de 7 à 11 ans déclarent qu'ils aiment la lecture. C'est ce que dévoile l'enquête menée par l'Institut de sondage Harris Interactive et le magazine J'aime lire. L'étude édifiante confirme que la télévision est l'activité préférée des petits, mais les parents sont formels, leurs enfants lisent beaucoup. Une nouvelle qui ravira les parents d'Augustin Billaud, le fils du créateur du journal de la culture. True love will find you in the end. Il est venu le temps de l'amour. L'artiste américain Daniel Johnston est mort hier. Il avait 58 ans. L'homme aux multiples casquettes était connu sur la scène rock alternative comme auteur, compositeur, interprète, poète et même dessinateur. Sa voix, son univers marqueront une génération entière d'artistes phares du mouvement grunge, notamment de Sonic Youth à Kurt Cobain, en passant par le groupe Yola Tango. Oh,
mais j'adore l'abstrait.
Mais j'adore l'abstrait.
L'origine du Mondrian, le musée Marmottan, réputé pour sa grande collection des œuvres de Monet, accueille dès aujourd'hui les premiers tableaux du peintre néerlandais Piet Mondrian. Jusqu'au 24 janvier, on pourra y découvrir une soixantaine d'œuvres figuratives de l'artiste, dont la moitié sont exposées pour la première fois à Paris. C'est une très belle façon de redécouvrir le travail de celui qui deviendra par la suite l'un des pionniers de l'art abstrait. Allez ! baroque en scène, c'est à Ambronay que s'ouvre ce soir le festival de musique ancienne le plus réputé d'Europe. L'événement se fait chaque année, le défenseur d'une musique baroque très inventive, métissée. Il rempile ce soir pour une 40e édition, événement au programme. 35 concerts de musique du monde sont attendus, des créations mêlant le baroque au jazz, au tango ou à l'électro. On y attend notamment William Christie, Christophe Rousset, encore Jordi Savall.
C'est un régal, ça.
Et l'écrivain Patrick Deville, invité de Boomerang ce matin pour Amazonia, on en parlait, son nouveau livre qui s'inscrit, je le précisais, dans un vaste projet littéraire initié il y a plus de 20 ans. Alors le nom de ce projet, c'est Abracadabra, ce qui mérite peut-être une petite explication. Pourquoi cette formule, Abracadabra ?
Il y en a une qui est simplement littéraire, c'est cette formule magique, c'est ce que nous venons de dire. Il y a cette, cela vient de cet extraordinaire étonnement que nous avons tous les matins d'être vivants.
Oui.
D'être jetés dans l'existence. Nous n'avons choisi ni le lieu, ni le siècle. Et nous vivons. Et c'est magique. Et c'est lié, alors encore avant Mort à Vagine, le premier livre que j'ai lu seul, et là encore je ne sais par quelle perversité, puisque j'étais doublement enfermé, l'écrivais dans le livre précédent, le français, j'ai grandi dans un hôpital psychiatrique, mais enfin pour des raisons professionnelles, dans un logement de fonction, mais j'avais une malformation congénitale des jambes, et donc j'ai passé, alors que je savais marcher avant, on m'a capturé, j'ai passé un an et demi ou deux ans allongé dans une coquille de plâtre, et que, sachant pas quoi faire de moi, on m'a appris à lire. Et le premier livre que j'ai lu, intitulé Le tapis volant, il y avait un môme de mon âge, le petit Michel, qui lui possédait un tapis magique dans sa chambre, pouvait s'asseoir, qui était un planisphère, ce tapis, pouvait s'asseoir à un endroit, prononcer la formule abracadabra, et se retrouvait là.
Est-ce que ça a fait pour vous du livre, de la lecture, de la littérature, un acte magique également ?
Oui.
Et
du lieu, parce qu'il se trouve que cet hôpital psychiatrique, sur l'estuaire de la Loire, quasiment à son embouchure, en face de Saint-Nazaire, était un ancien lazaret pour marins infestés, que c'est Jules Verne. Enfin voilà, c'est cette eau glissait devant, cette eau qui partait à l'océan. Tout cela était absolument lié.
C'était un enfermement physique dans cet asile, même si, et puis c'était aussi un enfermement physique compte tenu de votre condition. Qu'est-ce que c'est pour vous le corps d'un écrivain ? Qu'est-ce que ça représente, Patrick Deville ?
Alors là, je l'ai longtemps détesté. En fait, j'ai longtemps été un dualiste cartésien, en pensant que ce corps était une machine à ma disposition. J'ai mis très longtemps à devenir spinoziste, à comprendre que nous sommes ce corps, que je suis ce corps, que ça ne serait pas un corps qui m'appartient, c'est moi. Mais j'ai mis très longtemps. C'est quelque chose aussi de très... Enfin, c'est tout le drame de la philosophie occidentale, cette...
Écrire, c'est une expérience physique, pour vous ?
Oui, en tout cas, ces livres qui reposent beaucoup sur la bibliothèque, sur la lecture de la littérature, sur la lecture des journaux, de l'histoire, des historiens, ces livres, néanmoins... Je ne peux pas les écrire en bibliothèque. La bibliothèque est indispensable. Mais où, justement, le corps apparaît, c'est dans le déplacement. Je n'écris pas de fiction et je n'écris jamais sur un lieu que je n'ai pas vu. Et là, ce sont les goûts des aliments, les odeurs, les sons, les bestioles, s'agissant de l'Amazonie principalement.
C'est vrai que vous écrivez une littérature qui est indissociable du voyage. Quel est le premier voyage dont vous ayez rêvé ? Vous vous souvenez ?
Oui, c'était mes premiers déplacements furent maritimes et à la voile. J'ai grandi quand je suis sorti enfin de cet immobilisme. J'ai grandi au bord de la mer, donc j'ai appris un peu à naviguer.
Et vous rêviez d'aller où à l'époque ?
Alors je rêvais d'aller absolument partout, de faire le tour du monde. Alors c'était plus limité, j'ai navigué Bretagne, Anglo-Normande, enfin un peu comme tous les jeunes bretons qui commencent à naviguer.
Se sentir étranger, quel sentiment est-ce que c'est pour vous, Patrick Deville ?
Alors je n'ai pas de... J'aime beaucoup cette sensation, je me sens très bien partout, mais à condition d'être étranger. On n'est pas toujours autant étranger, suivant évidemment les lieux dans lesquels on séjourne ou on vit. Ça dépend beaucoup de la pratique linguistique. Il y a une très grande différence sur la planète. Ce sont les endroits où on peut utiliser la langue là, c'est-à-dire faire des rencontres de hasard dans les bistrots, rencontrer des gens, parler avec les commerçants, et les endroits où je travaille avec interprètes. Alors là, on se sent beaucoup plus étranger, c'est plus difficile. Enfin, je pense aux deux livres asiatiques que j'ai écrits. Je ne connais aucune de ces langues, le khmer, le lao, le vietnamien. Et donc la vie sociale est quasiment impossible.
Tandis qu'au Brésil, vous vous sentiez étranger, mais chez vous.
Oui, et puis dans les... Alors, c'est plutôt en ce qui me concerne dans la zone hispanique, bien sûr, quoi, partout en Amérique latine, enfin du Rio Grande à la Terre de Feu.
Allez, on fait un petit crochet par le Brésil, tous les deux. Après tout, vous nous en proposez une traversée. Ce matin, ça sera avec Elis Regina, Antônios Carlos Jobim et Milton Nascimento. Aguas de Março, 1972, vous êtes sur France Inter avec Patrick Deville, vous écoutez Beau Monde.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
caringa, candê,
é o mate da pereira.
Madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
um passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En fait, on est quelque part entre le médecin de campagne, le poète maudit et Geoffrey de Peyrac. Vous savez, la mèche blanche, souple et littéraire à souhait, l'air soucieux du perfectionniste angoissé, le mollet galbé et volontaire, l'œil bleu clair, couleur mer, partant gris, à Saint-Nazaire, avec sa chemise bleue, marine. Ce matin, l'écrivain Patrick Deville, invité de Boomerang pour ce livre, Amazonia notamment, qui m'a beaucoup marqué. Et j'aimerais qu'on revienne un peu là où tout a commencé, près d'un fleuve et d'un océan, à Saint-Brévin, à l'embouchure de l'estuaire de la Loire face à Saint-Nazaire où vous vivez désormais. À quoi ressemblaient les paysages qui vous ont vu grandir, Patrick Deville ?
C'est cet estuaire de la Loire, cet endroit, enfin, qui était devenu un hôpital psychiatrique, avait été créé comme un lazaret pour marins infestés. Tous ces livres que j'écris, qui sont des romans sans fiction, commencent en 1860. Et là, c'est 1862, mais c'est presque concomitant. C'est à la fois l'année où on crée, à l'embouchure de la Loire, sur la rive droite, le port de Saint-Nazaire, On creuse le bassin et ce sont les premiers chantiers navals de la marine en fer. Et ça remplace sur la rive gauche le grand chantier naval de la marine en bois qui était Paimboeuf, où ont été construits des navires comme la Boudeuse pour Bougainville, comme la Méduse, voilà, la fameuse Méduse. C'est le chantier de Paimboeuf.
Ce qui est intéressant, c'est que ces paysages, évidemment, vous les avez vus changer. Comment ont-ils évolué?
Ah, justement, moi je ne les connais que depuis 60 ans. Mais Paimboeuf, c'est là que le père de Jules Verne vient le rattraper et lui met une calotte. Jules Verne s'était embarqué, môme à 12 ans, comme mousse à Nantes, juste un peu en amont, pour partir sur l'Atlantique, au bout du monde, engagé comme mousse, quoi. Et son père avait bondi à Paimboeuf, le rattraper à la première étape et le sortir du navire. Et donc un peu plus loin, il y a ce lazaret qui avait été construit c'est lié à l'entreprise coloniale de la France au Mexique.
Alors il est devenu quoi?
Eh bien, il a été d'abord un lieu de quarantaine avec un canal pour mettre parce que le corps expéditionnaire envoyé au Mexique était revenu avec la fièvre jaune. Et puis ensuite, il y a eu diverses péripéties. Et lorsque moi j'y nais, c'était devenu un asile d'aliénés.
Et aujourd'hui?
Et aujourd'hui, c'est éclaté, ce sont toujours des lieux médicaux, mais quatre, enfin, il n'y a plus ce côté de lazaret avec un chemin de ronde, tout cela a été fermé. Quand j'y ai grandi, c'était un village de 2000 personnes, à peu près 1000 cinglés, 1000 soignants, en autarcie totale, avec tous les corps de métier, de la menuiserie, au jardin, à la cuisine et à la psychiatrie, il y avait tout le...
Un jour, je vous ai entendu déclarer, Patrick Deville, que Saint-Nazaire, c'était pour vous le centre du monde. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Oui, j'en ai fait mon centre du monde, puisque je passe une grande partie de mon temps, je ne veux pas, et lire de... Ces livres se déplacent géographiquement avec une progression inébranlable, sur zone comme cela. Et donc là, j'entame avec Amazonia un deuxième tour du monde, cette fois-ci de l'Est vers l'Ouest. Donc de l'Atlantique au Pacifique pour celui-là, de Belém au Brésil aux îles Galapagos. Mais toujours je reviens à Saint-Nazaire dont j'ai fait également le centre littéraire du monde, parce qu'il y a cette maison des écrivains étrangers et des traducteurs dont je m'occupe, où j'invite et édite de manière bilingue des écrivains du monde entier. Il y a toujours un écrivain étranger qui est là, parfois il y en a beaucoup pour des rencontres. Donc c'est devenu un port littéraire et cosmopolite.
C'est un texte sur l'écriture, sur votre processus de création que vous avez choisi de nous écrire ce matin, Patrick Deville. Un texte sur les journaux. Et j'aimerais bien que vous nous le disiez, si vous voulez bien.
Comme il existe de gros mangeurs de gâteaux, je suis un gros lecteur de journaux. Dans le peu de langues bien sûr que je connais, mais partout se lisent des titres en anglais, en espagnol ou en français. Assis devant le rénovateur à Vientiane, Laos, à Tanger le matin, le Tanzania Today à Dar es Salaam ou El Popular à Iquitos, le monde vient à vous qui l'accueillez, ordonné depuis l'actualité internationale jusqu'aux faits divers locaux. Partout en France, je déguste la PQR, la presse quotidienne régionale. Sacrifie à la cérémonie cigarettes et café devant la Dépêche du Midi ou l'éclaireur de Châteaubriand, Presse-Océan ou le Télégramme de Brest, ouvert sur les tables des bars tabac, leur une frappée du tampon encreur de l'établissement après avoir posé la rituelle question, c'est celui du bistrot. Comme ailleurs, on vous propose la stampa signore, carrelé dans les fauteuils club des fumoirs devant les cannes porte-journaux des grands cafés de l'Europe centrale ou de l'Italie, au milieu des boiseries vernies où l'on passait autrefois les pages au fer tiède afin que l'encre ne vous noircisse les doigts. « Who want yesterday's papers ?» chantait Mick Jagger. « I want ». Les journaux se bonifient dans l'ombre des bibliothèques comme le vin dans les caves, nous offrent de voyager dans le temps aussi bien que les millésimes des vendanges. J'avais emporté dans le Jura un exemplaire de la Vie d'Auloise du samedi 16 mai 1931, paru dans cette ville 80 ans plus tôt, pour en faire la lecture, laquelle m'avait appris la contravention reçue par un ci-devant cycliste qui, je cite, circulait à bicyclette sans lanterne vers minuit mardi dernier lorsque les gendarmes le rencontrèrent et lui dressèrent procès-verbal. Entrefilet qui donne une idée de l'ampleur de la délinquance urbaine des années 30. Dans la même parution se lisent les prémices de la guerre civile en Espagne, les menaces allemandes sur l'Autriche. Nous qui connaissons la suite terrible du feuilleton, fantômes du futur que nous sommes, l'envie nous vient d'alerter les lecteurs sur l'approche de la catastrophe. Ainsi les journaux, le temps passant, deviennent des romans sans fiction, pour qui nourrit ce goût des quotidiens, de la presse en papier comme des livres en papier, des kiosques comme des librairies et des bureaux de tabac. La dernière page lue, le journal replié, on songe à la phrase de l'argentin Borges qu'on peut traduire ainsi. Grand lecteur de journaux, il lui en coûta d'abandonner ses musées de détails éphémères.
C'est un art poétique. Patrick Deville, merci tellement d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'Amazonia est publié au Seuil. C'est une lecture pleine de méandres qui vous fera voyager et réfléchir aussi tout de suite. Sonia De Villers, la lumière des médias et son instant M, juste après ça.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sans mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Que je chante, Stéphane Echer sur France Inter.